Bonsoir, la parole est à vous aujourd'hui sur le thème de l'environnement. Donc on a beaucoup parlé dans les dernières émissions du problème du carbone. Là je vais doucement glisser sur le problème de la biodiversité. Et aujourd'hui donc j'ai avec moi Isabelle qui est vétérinaire, qui donc s'occupe beaucoup d'animaux de compagnie. Donc on va faire une émission sur l'impact éventuel des animaux de compagnie, ce qu'ils nous apportent, mais aussi effectivement quel est leur impact sur l'environnement et comment on peut éventuellement agir, faire des choix pour que cet impact soit plus tolérable. Voilà, donc Isabelle, donc du coup les animaux de compagnie, surtout les chats, les chiens, hein, ils apportent du bien-être aux humains. On sait que c'est important pour la santé mentale, parfois en particulier des enfants, c'est bien qu'ils soient en contact avec des animaux. Après, il faut trouver aussi des limites et pas se laisser envahir. Et puis donc, dans notre société où on doit réfléchir à l'influence de nos gestes sur l'environnement, l'impact carbone, etc., eh bien, il y a eu des gens qui ont abordé le sujet en disant qu'effectivement, les chats, les chiens, ils avaient un impact carbone non négligeable par rapport à leur alimentation, en particulier. Après, on pourrait même aller jusqu'à dire celui qui prend sa voiture et qui fait je ne sais combien de kilomètres pour aller promener son chien, peut-être plusieurs fois par jour, c'est aussi un impact carbone. Et puis, donc, il y a aussi l'aspect prédation, soit prédation directe, soit l'impact sur la biodiversité qui est lié à la présence de ces animaux. Voilà, donc du coup, on va essayer de faire un petit peu le tour de ce sujet en se limitant donc du coup aux animaux de compagnie. Voilà, donc Isabelle, je te laisse un petit peu la parole.
Bonjour à tous, merci Jean-Joseph de m'avoir invité. Alors, les animaux de compagnie occupent à peu près 45% des foyers français. C'est des chiffres qui sont en croissance. On a en 2024 28 millions d'animaux domestiques, de chats et de chiens. Et on a eu une forte croissance entre 2010 et 2020, notamment autour du Covid. Ils nous apportent beaucoup de choses. Tu parlais des enfants, ça aide à responsabiliser un enfant. C'est aussi parfois le seul lien avec la nature pour des citadins purs et durs. Et parfois aussi les derniers compagnons de gens qui sont très solitaires, comme les personnes âgées. Les chiens et les chats sont aussi un exemple pour nous, parce qu'ils peuvent être d'un courage qui nous laisse, qui devrait nous inspirer. Par contre, évidemment, avoir un animal, ça implique des droits, mais aussi des devoirs, en tout cas. C'est bien de conscientiser, ce n'est pas un mot très français, mais je l'aime bien ce terme, puisque d'avoir conscience, de prendre conscience de l'impact du fait d'avoir un animal chez soi ou plusieurs animaux chez soi. En 2023, je crois que c'est Jean Covici qui avait mis un pavé dans la mare en prétendant qu'un chien émettait une tonne de gaz à effet de serre par an, tandis qu'un cheval en émettait 3 tonnes. Ces chiffres ont un peu été revus à la baisse par des spécialistes du monde animal. Et sa plus grosse part, il s'agit de la part alimentation. Alors, on a maintenant des vétérinaires qui sont spécialistes en nutrition, et notamment Charlotte Deveau qui s'est penché sur la question. Alors, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les croquettes qui sont faites de plus ou moins bonne qualité, mais en tout cas même les croquettes de très bonne qualité, comprennent des coproduits et pour un chien de 15 kg, on estime qu'il y a 142 kilos d'équivalent de CO2. C'est une mesure qui permet de prendre en compte l'ensemble des gaz à effet de serre émis par une activité et pas seulement le CO2. Ça, c'est l'émission 142 kilos par an pour un chien de 15 kilos qui mange des croquettes. Par comparaison, un chien qui mange un aliment humide, ça émet 481 kilos, donc près de 4 fois plus.
Quand tu parles d'aliments humides, c'est la pâtée pour chien.
Exactement, oui, c'est la pâtée pour chien. Mais si on passe à une ration ménagère, c'est-à-dire une ration que l'on prépare soi-même, si elle est à base de poulet, eh ben on arrive à 612 équivalents CO2, c'est-à-dire près de 6 fois la quantité de croquettes. Et si on passe à une ration ménagère au bœuf, c'est 2472 kilos, équivalent CO2. Donc on passe de 142 à 2472. Donc c'est pas de, le but n'est pas de, de critiquer une méthode ou l'autre, c'est parce qu'il y a certains animaux qui ont besoin absolument de prendre des rations ménagères pour X raisons médicales. Et par contre, c'est juste en avoir conscience. Donc là, ça a été bien mesuré, c'est bien connu.
Donc on va dire que pour quelqu'un qui a un chien lambda, on va dire, donc c'est quand même plutôt mieux d'utiliser des croquettes que d'aller chercher d'autres aliments.
Alors, cet impact sur les gaz, sur l'émission de gaz à effet de serre, oui, c'est beaucoup mieux. Mais ce n'est vraiment pas le seul poste d'émission de gaz à effet de serre. Il y a aussi tout ce qui concerne la médicalisation.
Juste, je te coupe pour terminer sur cette histoire de, quand même d'alimentation, c'est important. Donc, les croquettes, de toute façon, sont fabriquées de manière à ce que, de toute façon, l'animal soit en bonne santé.
Alors, tout dépend de la qualité des croquettes. Ça, c'est sûr que la qualité, c'est comme dans tous les domaines, la qualité change et variable. Mais une croquette de bonne qualité, les croquettes premium, sont faites pour que l'animal soit en bonne santé. Après, moi, je ne suis pas la spécialiste de nutrition animale, mais c'est des croquettes qui sont adaptées, en général, à l'état physiologique. On a des croquettes. Moi, ce que je peux parler, c'est des croquettes qui se vendent chez les vétérinaires, parce que nous, en tant que vétérinaires, on a un droit de regard sur la composition, et non seulement la proportion lipides-glucides protéines doit être respectée, mais aussi c'est la composition sur laquelle on a un droit de regard. Et il y a beaucoup maintenant de fournisseurs qui font eux-mêmes un effort pour vérifier que leur croquette soit éco-responsable.
Voilà, donc on peut très bien nourrir un animal avec des croquettes. On n'est pas obligé de varier son alimentation, d'ajouter de temps en temps de la viande fraîche ou des choses comme ça.
Alors, normalement, pour le chien qui va très bien, le chien moyen, ce qui, entre guillemets, n'existe pas, une alimentation à base de croquettes est parfaitement équilibrée. Maintenant, certaines situations médicales, comme des allergies, qu'elles soient cutanées, dermatologiques ou alimentaires, peuvent nécessiter une alimentation, une ration ménagère, une ration humide. Certaines phases de la vie pathologique peuvent nécessiter une ration humide.
Voilà, donc du coup, on passe un peu dans quelque chose qui est pas tout à fait dans la norme, quoi. Hein, c'est ça.
Tout à fait. Donc, je parlais tout à l'heure que ce n'était pas le seul poste. Là, on parlait de l'animal qui évolue dans la famille. De plus en plus, l'animal est considéré comme un enfant. Et on parle aussi de propriétaires qui deviennent des pet's parents. Donc, du coup, évidemment, on pense aussi à tout ce qu'on achète pour l'animal. Ben, il s'agit juste de conscientiser que tout ce qu'on achète pour l'animal, c'est aussi quelque chose qui peut avoir un impact à la fois sur l'émission de gaz à effet de serre et sur l'environnement.
Voilà, surtout quand c'est des choses qui sont fabriquées en Chine et qui viennent de l'autre bout du monde en conteneur.
Tout à fait, tout à fait. Mais il y a aussi des sociétés françaises qui fabriquent des choses exprès pour les animaux. Donc, pareil, toujours la même chose, savoir prioriser ses choix.
Il existe des jouets, par exemple, qui ne sont pas en plastique.
Oui, bien sûr. Après, pareil, hein, moi, ce n'est pas tellement mon domaine de compétence, mais il existe des choses en bois de serre, il existe des choses qui ne sont pas en plastique, oui. Tu voulais parler aussi de l'impact sur la biodiversité des animaux, c'est bien ça?
Oui, donc, alors globalement, là, pour l'instant, on a plutôt parlé des chiens. Peut-être qu'on peut parler de l'impact sur la biodiversité, justement, aussi des chiens. Par exemple, on habite dans une zone, on va dire, de montagne. En hiver, par exemple, sur les crêtes, parfois, il y a des chiens, mais pas seulement les chiens, les randonneurs, simplement, peuvent déranger le gibier et un cerf qui a été obligé de courir dans un mètre de neige, il peut très bien mourir d'un arrêt cardiaque. Et c'est une cause de mortalité importante en hiver, en plus des conditions de vie difficiles. Donc, du coup, pour terminer un petit peu sur les chiens, est-ce que, du coup, il y a un impact justement des chiens sur la biodiversité? Quelles sont les règles qu'il faut respecter?
Alors déjà, le chien, sur les crêtes, normalement, il y a des panneaux qui demandent à ce que tous les chiens soient tenus en laisse. Et puis, il y a quand même des réglementations qui sont assez connues des propriétaires, comme par exemple pour se promener en forêt, à partir du 15 avril, du 15 avril au 30 juin, les chiens doivent être tenus en laisse, en dehors des allées forestières, pour préserver la faune sauvage pendant la période marquée par le début de la mise bas des mammifères et la nidification des oiseaux. Donc, quand même, il existe pas mal de réglementations qui existent pour justement que tout le monde vive en bonne intelligence.
Voilà, par réglementation qui ne sont pas forcément toujours connues ou respectées. Mais l'objectif de l'émission, c'est aussi de, justement, faire connaître les choses.
Tout à fait. Parlons maintenant de l'impact écologique des chiens via les résidus médicamenteux. Il y a des choses, des petites précautions qui sont bonnes à savoir, parce que les résidus médicamenteux sont très peu important par rapport à toutes les conséquences des pesticides agricoles. Mais c'est toujours bien de balayer devant sa porte. Et en tant que propriétaire d'animal, c'est quand même bien de faire de son mieux pour éviter, diminuer l'impact sur l'environnement. Les antiparasitaires externes sont indispensables. On ne peut pas s'en passer parce que tout est lié. On est vraiment dans une situation d'interdépendance. Le réchauffement climatique entraîne une population de tiques qui est beaucoup plus importante, avec des populations de tiques qui évoluent de plus en plus vite. Donc, on ne peut pas ne pas lutter contre les tiques. Notamment les tiques, je vais parler des tiques comme exemple, mais il y a aussi les puces et les autres parasites. Je parle des tiques notamment parce que ces tiques entraînent des maladies dites vectorielles, c'est-à-dire que les tiques sont porteurs de micro-organismes qui peuvent contaminer le chien, le chat, mais aussi l'homme. Donc, c'est vraiment un enjeu. Il existe beaucoup d'antiparasitaires, et ces antiparasitaires, ce ne sont pas des bonbons. En fait, les antiparasitaires externes se présentent de plusieurs façons, soit sous forme de comprimés, de spotones, c'est les traditionnelles pipettes, ou un collier. En fait, les comprimés sont vraiment plutôt très sécures. Mais par contre, il convient de ramasser systématiquement les excrétas pendant toute la durée de traitement et de limiter également les baignades et lavages pendant la durée de traitement. Pourquoi ? Parce que ces comprimés, ils sont quand même majoritairement évacués dans les crottes. Les pipettes, elles, quand on les met sur l'animal, sur le chien ou le chat, la première des choses à faire, c'est d'éviter que l'animal dorme avec son propriétaire et particulièrement avec les enfants pendant idéalement toute la période, mais avant tout pendant les premières 48 heures. Pareil, on évite de baigner un animal qui a eu une pipette. Donc les chiens sur lesquels on met des pipettes, il faut éviter absolument pendant 48 heures qu'il se baigne, éviter de le laver. Ça, c'est avant tout pour que la pipette ait un effet. Et pour que l'animal ne pollue pas le cours d'eau, il faut éviter qu'il se baigne pendant à peu près une semaine. Donc, après une pipette, l'idéal, c'est de ne pas baigner ou de ne pas laver l'animal pendant une semaine. Quant au collier, pour l'animal, pas de problème, il peut se baigner, le collier est résistant. Mais pour l'environnement, il est vraiment très important de retirer le collier avant une baignade ou un lavage. Et bien sûr, limiter le contact avec les enfants pendant toute la durée du traitement et de limiter les baignades à une fois par semaine pendant toute la durée du traitement et idéalement éviter le partage du couchage pendant toute la période où l'animal a été traité contre les parasites externes. Voilà donc pour le chien et le chat. Pour concernant les antiparasitaires externes. Je reviens quand même sur le fait que ces antiparasitaires, même s'il faut prendre des précautions, ils sont très importants à être utilisés, puisqu'encore une fois, les tiques transmettent des maladies vectorielles, mais il y a aussi les puces qui peuvent transmettre des parasites internes comme le ténia. Tu voulais aussi qu'on parle de l'impact du chat comme prédateur sur la biodiversité, je crois.
Voilà, effectivement, parce que donc on a parlé effectivement du bilan carbone. Alors il y a eu une période, un petit peu en même temps que cette histoire de Jean Covici sur le bilan carbone, il y a eu un membre du GIEC qui a dit cette phrase, donc les chats sont une catastrophe pour la biodiversité et les chiens pour le climat. Donc on a parlé un petit peu des chiens et du bilan carbone qui est essentiellement lié à leur alimentation. Effectivement, donc on peut parler un petit peu des chats, donc qui d'ailleurs, au départ, pourquoi est-ce que les hommes sont devenus des collectionneurs de chats et des éleveurs de chats? C'était bel et bien pour leur prédation sur les petits mammifères rongeurs.
Tout à fait. Ils ont été introduits il y a 14 500 ans. Ils ont été domestiqués au Moyen-Orient, justement de façon concomitante à l'apparition de la souris et de la sédentarisation de l'homme. Donc, on a été les chercher pour leur prédation. Mais avant d'enchaîner là-dessus, je voulais juste remettre les choses en perspective parce que le chien a été... accusé de pour son impact carbone, mais en fait cet impact carbone ne correspond que à entre 1 à 7% de celui d'un individu. Donc on va remettre l'église au milieu du village. Un chien n'émet pas autant qu'un être humain. Donc pour le chat.
Juste effectivement, donc effectivement, le problème des humains, c'est beaucoup leur comportement, les déplacements, le chauffage, leur consommation de biens. Après, l'alimentation en fait partie. Et effectivement, on a déjà parlé de l'impact des choix qu'on peut faire au niveau alimentation sur notre bilan carbone.
Alors, le chat qui a été accusé d'être un grand prédateur sur notamment les oiseaux. Il y a pas mal d'études qui existent, qui sont en cours, qui sont encore en cours, mais il y en a eu une qui a été réalisée sur 5000 chats pendant 8 ans et il y a eu 36 000 proies chassées. Un chat moyen ramènerait, suivant cette étude, 18 proies par an, donc moins d'une proie par mois, et en gros 68% de petits mammifères, 21% d'oiseaux et 8% de reptiles. Une autre étude a été réalisée en Angleterre sur 500 propriétaires de chats pendant 3 ans et demi. Et cette étude a montré que moins de 1% des chats ramènent plus d'une proie par mois. Et la majorité des proies sont de petits mammifères.
Tout dépend effectivement des situations entre le chat qui ne quitte jamais l'appartement et le chat qui passe toute sa vie dehors. Donc après, dans les petits mammifères, par exemple, j'ai vu des choses, par exemple, sur le fait que le chat pouvait être un prédateur sur l'écureuil roux, qui, dans certains secteurs, en tout cas, au moins, est une espèce protégée. Hein, comme aussi le lairot, par exemple. Mais donc, tout dépend des secteurs. Donc après... Il y a aussi des périodes où, effectivement, les oiseaux sont en nidification. Alors, est-ce qu'on peut éviter de laisser sortir les chats à certaines périodes? Voilà.
Alors, oui, sans doute. Après l'étude qui a été réalisée en Angleterre, ils avaient montré que 15 des plus de 7000 proies ramenées étaient des espèces protégées. Donc, bon, c'est toujours 15 de trop, mais c'est juste pour, encore une fois, mettre les choses en perspective. Alors, est-ce qu'on peut empêcher les chats de sortir à certaines périodes? Là, il n'y a pas de réglementation à ma connaissance.
Non, c'est juste un choix. Est-ce que, du coup, effectivement, après, il y a des choses quand même du bon sens. Par exemple, quand on installe un nichoir pour les oiseaux, qu'on invite les oiseaux à s'installer, il faut que ce soit hors de portée des chats qui vivent autour. Hein, parce que ce n'est pas la peine de faire venir des oiseaux, de les faire nicher pour que, en fait, le chat du voisin boulotte tout. Voilà.
Exactement. Plus que des réglementations, le bon sens doit primer et pour que tout le monde vive en bonne intelligence.
Moi vouloir être un chat, ma frotte contre tes bas. Je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait. Je n'aime plus la vodka. Moi vouloir être un chat tous les soirs quand je te vois. Moi vouloir être un chat retrouvé sur les gouttières. Mais comme bulle de litière, me toujours rester à toi. Prendre des minchafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être un chat et ne risquer de tes doigts quand le caresse sur moi. Attendre mon repas, tapis au creux de tes draps. Si un jour tu préfères à mes félines caresses les canines d'un chien en laisse, tu ne comptes pas sur moi. Pour dormir sur le sofa, je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera
Alors, parler de l'impact, est-ce qu'on peut limiter l'impact des chats? Un des problèmes, c'est par exemple, effectivement, de savoir se mettre des limites. Et autant il peut être raisonnable d'avoir un chat intéressant, autant peut-être qu'il est complètement déraisonnable d'en avoir un grand nombre, que ce soit les chats ou les chiens, ou comme tout, il faut savoir se mettre des limites.
La régulation de la population féline est vraiment un enjeu pour tous, parce que inutile effectivement d'avoir trop d'animaux si on ne peut pas en assumer le bien-être. Le bien-être, on en a parlé au tout début, le bien-être que fournit l'animal de compagnie à son propriétaire, mais on doit bien la réciprocité. Donc, c'est sûr que stériliser son chat, c'est essentiel. Il y a des campagnes organisées par les collectivités, d'ailleurs, pour attraper les chats errants et les stériliser. Les sociétés protectrices des animaux, les associations de protection des animaux font aussi beaucoup dans ce sens. Il y a aussi chez les vétérinaires une association qui s'appelle Vétérinaires pour tous qui intervient en organisant des campagnes de stérilisation de chats particuliers à revenus modestes, deux fois dans l'année, sur une période déterminée, mais il faut correspondre à des critères bien définis pour pouvoir faire stériliser et identifier son chat dans certaines conditions. En tout cas, cette régulation de la population, elle est très importante. Il existe de nombreuses associations qui agissent pour le bien-être de l'animal, mais aussi pour essayer de limiter l'impact de l'activité avec les animaux sur l'environnement. On a parlé de Vétérinaires pour tous, mais il y a aussi Vétérinaires pour la biodiversité, Ecoveto, la commission éco-responsabilité de l'AVAC, et en fait sont autant d'associations qui œuvrent pour diminuer l'impact écologique, l'impact environnemental de l'activité vétérinaire.
Oui, l'AVAC, c'est l'Association française de vétérinaires pour les animaux de compagnie.
Tout à fait, tout à fait.
Donc il y a des sites internet peut-être où on peut aller lire des choses?
Oui, c'est tout à fait possible. C'est plutôt une association qui va donner des conseils pour les vétérinaires dans leur pratique, mais c'est juste pour soulever le fait que, comme dans toute la société civile, et dans toutes les filières professionnelles, comme d'ailleurs parmi nos fournisseurs, des efforts sont faits pour limiter l'impact de nos activités sur l'environnement. Il y a régulièrement des enquêtes qui essaient de voir justement l'utilisation dont la manière dont le public utilise les biocides. Il y a l'ANSES qui a mené une enquête en 2019 de grande ampleur auprès de 15 1500 ménages.
L'ANSES, c'est l'Association nationale de santé et environnement.
Voilà, c'est ça. Et qui a montré que 75% des ménages ont utilisé au moins un produit pesticide dans les 12 mois qui précédaient la date de l'enquête. Les produits les plus utilisés sont des insecticides. 84% des ménages ayant utilisé des pesticides ont employé des insecticides dans l'année. C'est principalement contre les insectes volants pour 40% ou des insectes rampants pour 28%. Et un tiers des ménages ne lit jamais les indications des emballages des rodenticides. Les rodenticides, c'est les anti-rongeurs. Un quart d'entre eux ne les lit jamais pour les produits contre les insectes volants et rampants. Même quand elles sont lues, ces indications, elles ne sont pas forcément respectées. Donc, ce n'est pas pour donner des leçons, on est tous dans le même bateau, en fait. Apprenons la patience et prenons le temps de lire les notices. Parce que ça a vraiment des gros impacts. En effet, il peut y avoir des résistances aux produits biocides, et ça, c'est très important. Ces résistances, elles mettent en péril les stratégies de lutte contre les nuisibles et peuvent entraîner des problèmes de santé publique, notamment quand les nuisibles sont porteurs de maladies. Ça peut entraîner des résistances croisées à des molécules antibiotiques. Et d'ailleurs, l'ANSES met en évidence des résistances croissantes, voire déjà établies à certains biocides. Résistance de la bactérie à des désinfectants et résistance de certains insectes à certains antiparasitaires. Donc, bon, voilà, on parlait de responsabilisation au départ. Ben, c'est à chacun d'entre nous de prendre le temps de lire les notices et d'utiliser les produits selon les recommandations.
On connaît bien le problème des résistances aux antibiotiques avec effectivement des antibiotiques qui sont utilisés un peu partout, en particulier dans tout ce qui est nourriture animale, enfin de tout ce qui est élevage, pour effectivement manger ensuite les animaux.
Et oui, et justement, c'est quand on ne lit pas bien nos notices et qu'on les utilise à mauvais escient, qu'on augmente le risque de pollution des nappes phréatiques. Et maintenant, il existe des preuves de mécanismes communs de résistance aux biocides et aux antibiotiques qui peuvent être acquis, par les bactéries. Donc, révisons notre façon de faire.
Voilà, tu parlais aussi donc des traitements pour lesquels, ben, du coup, il faut absolument ne pas laisser les excréments des animaux dans la nature.
Alors, c'est une des raisons à mettre en avant pour justifier quelque chose qui nous casse tous un peu les pieds. Ramasser les excréments quand on promène son chien, bah, c'est pas très drôle, faut avoir le bon geste. Mais c'est vrai que, est-ce que ça nous aiderait de savoir que, bah oui, ça nous permet de limiter les résidus médicamenteux? On a quand même une législation qui impose pour tous les chiens qui subissent de la chimiothérapie une législation absolument draconienne, bien plus importante que pour les êtres humains qui sont en chimio, puisque les animaux doivent être hospitalisés et nous, en tant que soignants, on a à respecter des conditions draconiennes à la fois quand on exerce la chimiothérapie, mais tous les excrétats doivent être évacués suivant une filière bien tracée. Donc, ça serait dommage que tant d'efforts soient faits pour les excrétats qui contiennent des résidus de médicaments de chimiothérapie et qu'on n'en fasse pas le dixième pour tout ce qui est résidus médicamenteux classiques.
Voilà, on sait très bien que finalement, ben voilà, les traitements, quand on prend un traitement antibiotique ou un traitement hormonal, ben on sait très bien que de toute façon, c'est évacué par les excrétats qui finissent dans les stations d'épuration qui ne sont pas capables de traiter ces molécules-là, donc ça finit dans l'eau.
Si on ramasse les crottes de son animal, si on les met aux ordures ménagères, celles-ci, elles vont être, en tout cas sur de nombreuses communes vosgiennes, elles sont brûlées. Donc là, il n'y a pas ce problème de que ça se retrouve dans l'eau.
Voilà, oui. Si on les ramasse et qu'on les met dans les ordures ménagères, en fait, hein, puisque les ordures ménagères sont incinérées, effectivement. Donc voilà, je parlais surtout de la pollution par les traitements médicamenteux humains qui finissent dans les stations d'épuration. Voilà.
Ok, oui, non, c'est sûr que j'en étais restée aux animaux.
Il s'appelait Stubble, c'était un cheval blanc, il était mon idole, et moi j'avais 10 ans, notre pauvre père, pour acheter ce pur sang avait mis dans la ferme jusqu'à son dernier franc. Il avait dans la tête d'en faire un grand champion.
Bonjour, je suis Charles François, vétérinaire équin. Merci de m'avoir sollicité pour cette interview sur la place du cheval dans la société, autrefois, maintenant et dans le futur, avec un focus sur l'environnemental. Le cheval a toujours été présent auprès de l'homme depuis qu'il a été domestiqué il y a fort longtemps. Les utilisations, bien sûr, sont différentes, les milieux de vie sont différents, mais il reste présent dans pas mal d'endroits, que ce soit pour le loisir, pour le travail, le sport, les courses, la médecine. Animale. Il a un rôle important sur le maintien des pâturages et des activités en milieu rural, avec l'avantage, entre guillemets, par rapport aux ruminants, de produire moins de méthane. On en produit tous, même nous humains, mais le cheval en produit moins. Il va être un petit peu plus sélectif sur les prairies qu'il entretient, mais l'association avec, par exemple, des moutons ou des chèvres, ou même des ânes, permet de gérer ce qu'on appelle les refus chez le cheval. Le cheval a été un cheval de travail d'abord, un cheval de guerre aussi parfois. Maintenant, cet aspect-là est moins important. On n'est pas sur une activité de loisir avec les courses ou de sport pour les gens qui en pratiquent. Le loisir, c'est vraiment soit on va au PMU, on regarde les courses, soit on va aussi faire du tourisme, ce qui permet d'aller se balader assez loin avec peu d'émissions de carbone, on peut le dire, et de rencontrer la faune et la flore de manière quand même privilégiée, en préservant l'environnement, sans piétiner le sol, sans abîmer le passage. Au-delà du loisir et des courses, le cheval a aussi un rôle utilitaire, un peu particulier, par exemple, dans la médiation animale. Il est utilisé pour la réinsertion de personnes fragiles, pour la médiation entre les gens. Il a un rôle utilitaire qui se développe, qui se retrouve sur du côté traction animale. Il est utilisé dans certaines communes pour le ramassage des ordures, par exemple, ou le transport des enfants vers l'école, comme une espèce de bus, qui forcément émettra beaucoup moins de gaz à effet de serre, et qui, en plus, apporte un rôle convivial et des sources de discussion pour les enfants. En traction animale, il est utilisé aussi pas mal dans les vignes du côté côté bio pour pouvoir traiter les sols, labourer, etc., désherber naturellement avec un faible impact aussi sur le tassement des sols. Ça, c'est important. C'est aussi son intérêt grandissant dans le débardage. Le cheval permet d'aller chercher des grumes dans des endroits un peu escarpés, un peu tortueux, avec forcément des cloisonnements, donc des pistes qui sont pas forcément très larges. Donc ça limite le besoin de faire des grandes travées dans les forêts et ça limite énormément le tassement qu'impose au sol les machines, les débardeuses qui sont quand même de lourds engins avec des gros pneus. Si on réfléchit RSE plus large, on a un rôle social donc qu'on peut souligner quand même de rassembler autour du cheval de nombreux acteurs, entre des éleveurs, des maréchaux ferrants, des producteurs d'aliments pour chevaux, des fermiers, des personnes qui vont faire des activités autour, des enseignants, des psychologues. Donc vraiment, c'est un lien de cohésion sociale. Du côté environnemental, est-ce que le cheval a un avenir dans la société qui cherchera à réduire son impact environnemental? Oui, c'est certain. Il faut trouver de manière globale des solutions pour utiliser le cheval. C'est pas un miracle au défi climatique, mais il peut faire partie d'un modèle qu'on voudrait plus durable pour l'entretien des espaces naturels, la gestion de zones un peu sensibles d'un point de vue environnemental. Son utilisation, notamment en traction, est vraiment vraiment importante. Et puis bien sûr, il faut comme veiller à son bien-être, hein, ne pas en faire un animal purement de trait, mais c'est quelque chose qu'on constate qui est de moins en moins présent et de plus en plus d'affection. C'est un animal quand même particulier, très attachant. D'ailleurs, on voit que la relation entre l'homme et le cheval, elle évolue. On a de plus en plus de prise en compte du bien-être, l'arrêt de certaines pratiques qui étaient coercitives pour le dressage ou l'éducation, et avec plutôt une éducation positive. Du côté purement médical, il y a un impact, par exemple, des traitements médicamenteux chez le cheval. Et au sein de l'AVEF, l'Association Vétérinaire Équine Française, on a émis des recommandations pour l'utilisation raisonnée, notamment des antiparasitaires, des vermifuges, qui traitent les vers gastro-intestinaux des chevaux. Parce que les médicaments peuvent se retrouver dans les urines et surtout dans les crottins des chevaux et avoir un impact sur la faune. La faune et notamment les insectes. On recommande d'ailleurs de ramasser les crottins et de les traiter, de les mettre sur un tas de fumier pour que les molécules soient partiellement ou totalement détruites par la chaleur du compostage et de la fumière. Et donc surtout, on dit qu'il faut traiter le moins possible et plutôt privilégier des examens tels que la coproscopie où on va prélever des crottins et regarder dedans si on trouve des œufs ou des parasites. Voilà pour le côté purement médical. Donc le cheval, pour moi, c'est un acteur du développement durable. Ça maintient beaucoup de liens sociaux. Il entretient des activités en campagne. Il permet l'entretien d'espace vert, entre guillemets, en tout cas de pâture. Et il a vraiment une dimension humaine importante. Donc l'avenir de cette filière ne passera pas uniquement par les courses et le PMU, mais par un équilibre entre l'utilité du cheval, le loisir, la compagnie, la durabilité, le bien-être de l'animal au sein d'un environnement rural qui sera préservé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, n'hésitez pas à les caresser ou vous occuper de chevaux. Ça apaise.
Dans le Nord, on n'est pas là pour voir tout ce qui se passe. Il y avait des millions de caribous qui vivaient là avant. L'industrie est arrivée, buffet à volonté. La forêt a diminué. Moins de nourriture, moins d'abris pour se cacher. Les loups sont arrivés, ils ont commencé à les encercler. Les caribous se sont dit, nos jours sont comptés. Ils ont pris le jambe à le cou, puis ils se sont mis à courir.
est maudit, les caribous sont partis, les blancs sont arrivés, ils sont venus pour travailler, l'écologie dans l'oubli, privilège pour les lobbies, les contrats sont signés, la nature est condamnée.
Ils sont où les caribous? Ils sont où les caribous? Ils sont où les caribous? Ils sont changés en partout.
Ils sont où les caribous? Ils sont où les caribous? Ils sont où les caribous? Ils sont changés en partout. Seigneurs des profits, exploiteurs de ressources, écoutez la terre, écoutez le peuple. Nous courons notre perte. Les caribous, eux, courront jusqu'à leur dernier souffle.
voilà, nous avons parlé des chats, des chiens avec Isabelle, des chevaux avec Charles. Je vais compléter un petit peu le panorama. Alors, par rapport aux autres animaux domestiques autres que le cheval, je dirais un certain nombre de personnes prennent des chèvres, des moutons pour entretenir leur parcelle de terrain, par exemple. Hein. Donc, les chèvres et les moutons, il faut rappeler que ce sont des ruminants, hein, comme les bovins, comme la vache. Ils sont aussi émetteurs de méthane. Mais, comme on l'a cité, comme l'a dit Charles, donc, en fait, et comme on l'a vu dans des émissions précédentes, l'entretien des prairies, éviter que la broussaille n'envahisse les prairies naturelles, eh bien, c'est une manière d'agir pour l'environnement, puisque ces prairies naturelles stockent le carbone dans le sol. Donc, du coup, c'est quelque chose d'intéressant. Après, donc, dans les autres animaux, on ne va pas aujourd'hui s'étendre trop, mais en tout cas, donc, il y a aussi ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie. Alors, les nouveaux animaux de compagnie, c'est très vaste. Donc, entre le poisson rouge, qui n'est pas forcément un nouvel animal qui existe depuis longtemps, tout un tas d'autres animaux. Alors, qui pose parfois des problèmes au niveau du trafic d'animaux, avec les espèces protégées qui font parfois l'objet de commerce qui est très lucratif pour un certain nombre d'intermédiaires. D'autres espèces parfois pourraient être relâchées dans la nature, ce qui pose aussi un gros problème. On en reparlera un petit peu plus tard. Hein. Tout à l'heure, je disais, on va pas trop parler, par exemple, des bovins, mais on va aborder un petit peu rapidement, peut-être, les animaux qui sont élevés, hein, qui sont élevés pour différentes raisons, et en particulier pour servir de nourriture à ceux qui mangent de la viande ou des protéines animales, en tout cas. Hein, donc, récemment, dans l'actualité, il y a eu cette histoire de ferme d'aquaculture gigantesque dans la région de la Gironde, je crois. Hein, donc, les problèmes d'élevage le problème que ça pose dès que ça atteint une certaine dimension. Des problèmes de bien-être animal, bien sûr, mais aussi des problèmes de pollution de l'environnement, pollution par différentes sources. Alors, tout à l'heure, Isabelle nous a parlé du problème des médicaments. Donc, effectivement, dans un certain nombre d'élevages, la concentration, que ce soit la concentration de saumon ou la concentration de poules, de volailles ou même de vaches. Hein. Cette concentration fait que il y a des développements de maladies, hein, et que donc du coup il faut des traitements, hein, des traitements qui ensuite effectivement sont rejetés dans le milieu. Sans compter les autres types de pollution, en particulier la concentration des excréments fait que parfois ils ne peuvent pas être traités complètement et ils entraînent une pollution dans la nature. On connaît très bien le problème de l'élevage bovin ou de l'élevage porcin, surtout en Bretagne, avec le problème des algues vertes. Hein, concernant les bovins, je rappellerai le projet de la ferme des 1000 vaches. Je ne sais pas trop ce que ça a donné. Mais en tout cas, par rapport à l'environnement, il est certain que pour tout un tas de raisons, l'élevage industriel devrait être remis en question, hein, remis en question comme modèle d'une agriculture industrielle qui par rapport à tous les enjeux climatiques, et une agriculture dépassée du fait de son impact sur l'environnement. Donc, sur cet impact des animaux qui sont élevés, je rappellerai que, effectivement, quand on mange, on fait des choix sur notre alimentation. On en a parlé déjà lors d'émissions précédentes. Et effectivement, donc, la diminution de la consommation de viande de bovin, actuellement, bascule en partie sur la viande de volaille. Alors, c'est sûr que les volailles ont un impact beaucoup moins important au niveau de l'environnement. En particulier, la volaille n'émet pas de méthane dans son alimentation. Après, effectivement, c'est de toute façon quand même des protéines végétales du blé et de la nourriture qu'on donne aux volailles qui doit être transformée en protéines animales, et là, ça prend automatiquement, disons qu'il y a un pourcentage de déperdition, on va dire, et que effectivement, c'est plus simple de manger des protéines végétales directement plutôt que de passer par l'intermédiaire des protéines animales. Je voudrais aborder rapidement le problème aussi, si on mange des animaux, du coup, il y a les abattoirs. Donc, les abattoirs ont aussi un impact sur l'environnement. Après cet impact, peut-être qu'un jour, on fera appel à des vétérinaires ou des gens qui connaissent ce secteur-là. Moi, je ne suis pas, très expérimenté là-dessus. L'impact, il est surtout par rapport au bien-être animal les conditions qui règnent dans ces abattoirs. On va faire un petit passage sur les animaux sauvages, sur la biodiversité. Alors, sur cette biodiversité, on a parlé un petit peu rapidement de la prédation par les chats en particulier, les prédations surtout sur les oiseaux. Mais il faut, comme l'a dit Isabelle, rappeler que l'essentiel de la diminution des populations d'oiseaux est lié aux pratiques agricoles et à l'utilisation de pesticides, d'insecticides par les agriculteurs, mais pas seulement, aussi par chacun chez soi. Isabelle nous en a parlé, donc les gens qui utilisent des produits contre les fourmis, etc., finalement, ils participent à au fait de répandre des molécules dangereuses pour l'environnement. Je voudrais parler aussi, par rapport à l'impact sur l'environnement du gibier. Le gibier, on est pour la chasse, on est contre la chasse. Toujours est-il que, par rapport à une certaine époque, on a une gestion du gibier par les chasseurs. Et finalement, ces chasseurs, petit à petit, ils ont joué pour eux, Ils ont joué pour eux en augmentant finalement les populations de gibier, avec effectivement, dans certains secteurs, un impact fort sur l'environnement, en particulier avec ce qu'on appelle l'abrutissement des jeunes pousses, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où finalement les arbres n'arrivent plus à pousser parce qu'il y a une trop grande pression des chevreuils, des cerfs, des biches, des ongulés qui viennent manger les pousses et empêchent finalement les arbres de pousser. Donc il y a ça. Après, les sangliers qui se multiplient, je dirais que eux, ils font des dégâts dans les champs des agriculteurs, mais pas forcément dans l'environnement général. Ce serait presque plutôt l'inverse, parce que quand ils créent des mini-mares par le fait de vouiller la terre et de créer des espaces pour se rouler dans la boue, finalement, ils créent des petites zones où toute la faune qui est attachée à ce milieu peut se développer. Voilà, donc après, ça nous amène un petit peu à effectivement la chasse, hein, donc la chasse qui effectivement peut avoir un impact effectivement sur l'environnement. Alors après, on aura l'occasion d'inviter d'autres personnes, d'autres associations qui nous parleront un petit peu des espèces protégées, pas protégées. Parfois des chasseurs qui manquent, on va dire, d'éthique peuvent s'attaquer à des espèces protégées. Il n'y a pas très longtemps. Il y a toute la polémique sur les loups, mais il y a aussi les lynx qui subissent la pression parfois de la chasse, mais pas seulement, hein, aussi de la circulation automobile, puisqu'en fait, la circulation automobile est responsable de beaucoup de mortalité animale, finalement. Donc les lynx en particulier ont été mis en danger par rapport à ça. Certains agissent pour préserver un petit peu cet aspect-là. Alors, il y a par exemple ceux qui, au moment de la migration, au moment des amours des crapauds, installent des crapauducs ou aident les crapauds à traverser des routes là où il y a une forte mortalité. Quand on va d'ici vers la Haute-Saône, il y a deux endroits où il y a des palissades long de la route pour préserver les chauves-souris qui traversent à cet endroit-là. Hein. Donc voilà, il y a différentes manières d'essayer de préserver cet aspect. Hein. Mais on a parlé un petit peu avec Isabelle du dérangement des animaux, hein, en particulier par les chiens. Hein, alors effectivement, un chien, il a besoin de courir, etc. Il est très facile de le lâcher dans la nature. Hein, mais après, quel est son impact ? Hein, donc, on l'a rappelé avec Isabelle, il y a des périodes où il y a la nidification, où il y a tout un tas de jeunes. Là, il faut garder les chiens en laisse. Après, j'irai un petit peu plus loin en disant quel est l'impact du loisir. Hein, le loisir avec, effectivement, autour des villes, des loisirs qui envahissent la forêt. Hein. Donc, je l'avais rapidement évoqué, donc les randonneurs qui essayent de préserver la nature, de se promener de manière intelligente dans la nature, mais qui, parfois de manière absolument pas intentionnelle, dérangent le gibier. Hein, et en particulier, par exemple, dans des conditions difficiles en hiver, il y a une mortalité importante des cerfs, chevreuils qui doivent fuir les randonneurs et qui s'épuisent dans la neige et c'est aussi un facteur de mortalité. Je ferai un petit abord sur les espèces envahissantes. Eh bien, voilà, aussi, ça, c'est une atteinte à l'environnement, c'est-à-dire que les espèces, parfois, sont introduites de manière volontaire, comme, par exemple, des plantes comme la renouée du Japon, qui a été introduite, par exemple, pour des élevages, comme le vison d'Amérique, par exemple. Et puis, il y a des espèces qui sont importés de manière involontaire, comme par exemple, il y a quelques années, le frelon asiatique qui est arrivé et qui envahit progressivement. Il y a aussi d'autres espèces comme des mollusques sur la coque des bateaux, comme les écrevisses américaines donc qui ont un impact important sur la flore, comme la grenouille taureau. Enfin, il y a tout un tas. On essayera de faire aussi une émission par rapport à ce problème-là. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Merci de votre écoute et à une prochaine fois. Au revoir.